Chapitre 25. La voix était de plus en plus nette. Le médicament des hiboux avait réveillé son double cachet. Ce n'était pas cette fois une Léonie rageuse, haineuse, qui émergeait de ses labyrinthes intimes, mais une Léonie attentive, curieuse, inquiète. Les flics l'avaient enfermée dans une minuscule cellule pourvue d'une couchette en dur et d'un chiotte nu dressé au centre de la pièce. Ses explications n'avaient pas convaincu. Elle avait raconté qu'elle s'appelait Josie Lafleur, qu'elle était originaire de Guadeloupe et qu'elle avait perdu ses papiers. Le flic, jeune et hargneux, qui prenait sa déposition, avait levé un regard dubitatif par-dessus l'écran de son ordinateur. Le commissariat puait le moisi, les sécrétions intimes, le café frais et le tabac froid, malgré les énormes panneaux d'interdiction de fumer. Pas grand monde. Quelques ivrognes ramassés dans les rues et libérés après une nuit de dégrisement en cellule, une prostituée à la peau blême, au maquillage agressif et aux fringues hurlantes, deux jeunes pris dans une bagarre à la sortie d'une boîte, des flics en uniforme au visage morne, d'autres en civil qui passaient en coups de vent et semaient derrière eux des éclats de voix et de rire. Son interrogateur lui avait dit, avec un sourire entendu, qu'il allait vérifier son identité dans les fichiers. Le nom de Josie Lafleur apparaîtrait sans doute sur son écran, mais il se rendrait vite compte qu'il s'appliquait à quelqu'un d'autre, que la jeune noire interpellée quelques heures plus tôt dans un troquet du 12e était une usurpatrice, une clandestine, et il pourrait aussitôt lancer la procédure d'expulsion. Elle était foutue. Elle n'avait jamais voulu venir dans le pays des Blancs. Elle ne voulait pas davantage en sortir, sa vie lui coulait entre les doigts. Un sort funeste s'ingéniait à contrarier chacun de ses désirs, comme s'il était écrit dans le ciel qu'elle devait tôt ou tard replonger dans la fournaise du Libéria. « Appelle le grand hibou », lui suggérait son double. « Il pourra certainement faire quelque chose pour toi. » Quelle idée absurde. D'abord, le grand hibou l'inquiétait avec ses yeux étranges dont elle n'avait jamais réussi à déterminer la couleur. Ensuite, il n'était pas du genre à se soucier du sort d'une pauvre négresse. Enfin, il économiserait les 1 700 € qu'il avait prévu de lui remettre au deuxième rendez-vous. Les flics n'avaient pas rendu son téléphone portable à Léonie. Ils vérifiaient sans doute les numéros dans le répertoire, dans la mémoire SIM, ou sur la liste des appels. Elle avait droit à un coup de fil, comme tous les détenus en garde à vue, insistait son double. Même en tant que clandestine, c'était la loi. Qu'est-ce qu'elle risquait à demander? Elle héla le keuf de faction. Il s'approcha de sa cellule d'une allure d'ours piqué par un essaim d'abeilles et lui demanda ce qu'elle voulait, la Miss Afrique. Elle répondit, de sa voix la plus ferme, que la loi lui donnait droit à un coup de téléphone. L'ours la toisa avec tout le mépris que lui conférait sa race, son sexe, sa fonction, son uniforme et sa mauvaise humeur. Puis il éclata de rire en toute simplicité. De quoi elle parlait, la Miss Afrique? De la loi? Si elle l'avait respectée, la loi, elle y serait restée dans son bled d'Afrique. Elle n'avait rien à exiger, nada, que dalle, bien contente déjà qu'on la renvoie dans un avion, et pas dans le radeau pourri avec lequel elle s'était échouée sur une plage d'Espagne ou du sud-ouest de la France. Elle lui retourna une réplique soufflée par son double. Je croyais que la France était le pays des droits de l'homme. Le nouvel éclat de rire de l'ours fit trembler le ventre qui débordait de son ceinturon. Bah oui, et notre droit, justement, c'est de te virer de chez nous. T'auras qu'à leur demander à ceux qui gouvernent ton pays de t'en parler des droits de l'homme. Léonie se résigna. Elle n'avait pas envie d'appeler le grand hibou et ignora les protestations de son double. Ici ou là, en France ou au Libéria, en Europe ou en Afrique, elle ne trouverait jamais sa place nulle part. Elle était une déracinée, une âme errante. L'ours poussa un grognement de satisfaction, se gratta l'entrejambe et s'éloigna de son allure dandinante. Léonie revint s'asseoir sur le lit. Elle commençait à avoir faim et soif. Les keufs avaient distribué des sandwichs et des boissons à d'autres détenus, mais ils l'avaient oublié, ou bien ils considéraient que la nation française, dans son immense générosité, l'avait déjà suffisamment nourrie. Elle se demanda si sa vie valait la peine d'être poursuivie. Non, si elle tirait le bilan de ses 20 années de présence sur Terre. Oui, si elle écoutait l'instinct qui la poussait à continuer, à découvrir, à espérer. Oui, clamait son double en écho, parce qu'elle n'était jamais seule, parce que ses pensées, ses actions concernaient d'autres humains. Ah bon? Tu ne connais pas l'effet papillon? Elle n'en avait jamais entendu parler. Où donc son double? Sa partie cachée, c'est-à-dire elle-même, pêchait-il ces drôles d'idées? C'est une théorie qui prétend que le battement d'aile d'un papillon en Chine peut déchaîner un ouragan des milliers de kilomètres plus loin. Quel rapport avec moi ? Eh bien, tes pensées, tes actions ont probablement une influence sur le reste de l'humanité. Le dialogue avec la Léonie cachée ne la déroutait plus. Elle ne sombrait pas dans la folie, pas encore. Elle tenait une conversation intime et silencieuse avec une amie confortablement logée en elle. Une définition comme une autre de la possession, sauf qu'un esprit mauvais n'aurait pas discuté avec elle. Il aurait agi à travers elle, il l'aurait utilisée comme une marionnette. La pensée de son double était de plus en plus nette, douce, complice, chuchotée dans le creux de son oreille. Elle oubliait la rumeur du commissariat et l'inconfort de sa situation pour se concentrer sur ses pensées qui naissaient d'elle et pourtant lui semblaient étrangères. La molécule des hiboux avait d'étranges pouvoirs. À quel usage était-elle destinée ? La vague réponse qu'il lui avait fournie du bout des lèvres, soigner certains troubles psychologiques, n'était guère satisfaisante. Ils en attendaient certainement des résultats extraordinaires. Ils n'auraient pas observé toutes ces précautions autrement. Peut-être se nichait-elle là, l'influence de Léonie sur le reste de l'humanité. D'elle et des autres cobayes dépendait le sort d'hommes et de femmes gravement malades qui attendaient le remède de la dernière chance. La vérité est à la fois plus simple et plus effarante, pensa son double. Parce que tu la connais, toi, la vérité. Le flic qui avait pris la déposition de Léonie se présenta devant la grille de sa cellule, l'œil rond et brillant du faucon fondant sur sa proie.
« L'affaire ne s'annonce pas très bien pour toi, Miss Afrique. »
Il jubilait, le faucon. Il la tenait entre ses serres. Il justifiait d'un seul coup les mois de salaire versés par l'administration. Il s'apprêtait à traîner devant ses responsables, la clandestine, la hors-la-loi, débusquée par son flair dans un obscur troquet du 12e. Il se gonflait d'importance. Il avait rendu un fier service à la nation.
Il y a bien une Josie Lafleur dans le fichier, elle est bien guadeloupéenne, mais elle vit à Pointe-à-Pitre. Elle est âgée de 69 ans et, à moins que t'aies trouvé le secret de la jeunesse éternelle, tu peux pas être elle. Par contre, je suis tombé sur un truc vachement intéressant. La fuite d'une jeune Africaine d'une vingtaine d'années d'un foyer d'accueil de Marne-la-Vallée la veille de son expulsion. Une fille du Liberia. Ah oui, les numéros qu'on a trouvés dans ton téléphone, eh ben, c'était ceux des occupants d'un squat du 20e arrondissement, tu sais, ceux qu'on a récemment expulsés.
Tué. Le souvenir de Denis la traversa, réveilla des blessures encore vives et une forte envie de pleurer.
Ils auraient pas dû résister. Un vrai nid de scorpions. Une fabrique de faux papiers, entre autres. C'est là qu'on t'a refilé une carte d'identité au nom de Josie Lafleur, pas vrai?
Elle n'eut la force ni de nier, ni d'acquiescer. À quoi lui aurait servi de se battre? Appelle Johannes, suggéra son double.
Johannes?
Le technicien du laboratoire? Comment est-ce que tu connais son nom? Peu importe, bordel, appelle-le.
Bon, je préviens le service chargé des expulsions. J'espère que cette fois, ils te laisseront pas filer, hein. En attendant, tu restes dans cette cellule. T'es bien ici, non? On va bientôt t'apporter de quoi manger. On n'est pas des chiens, tout de même.
J'ai droit à un coup de téléphone.
Soupir exaspéré du faucon.
À quoi bon? Aucun baveux te sortira de là. Pas même ceux qui se la racontent dans les médias.
J'ai droit à un coup de téléphone.
Le faucon, certainement plus avancé que l'ours sur l'échelle de l'évolution, hocha la tête d'assez mauvaise grâce, s'éloigna dans le couloir, revint quelques instants plus tard et lui tendit son téléphone à travers la grille.
« Un seul, hein ? J'attends. »
Léonie récupéra dans la poche de son blouson la carte vierge où le grand hibou avait griffonné son numéro. Ses doigts gourds, malhabiles, durent s'y reprendre à plusieurs reprises pour presser les touches dans le bon ordre. Son correspondant répondit à la première sonnerie. Elle reconnut tout de suite sa voix, son timbre haché et désagréable. Il parut soulagé d'avoir de ses nouvelles. Elle lui raconta brièvement ce qui lui était arrivé en omettant la découverte du cadavre d'Anselme et la brève discussion avec son meurtrier. Le grand hibou lui réclama l'adresse du commissariat. Elle interrogea le flic, qui la lui donna d'un ton rogue. Le grand hibou coupa lui-même la communication après avoir recommandé à Léonie de ne rien faire qui risquât d'aggraver son cas. Elle rendit le téléphone au faucon.
« Alors, qui t'a eu? Le président de la République ?»
L'ours et le faucon se fendirent la poire, les occasions étaient rares de rigoler dans les commissariats parisiens. Puis ils l'abandonnèrent à son sort.
« Voilà, je l'ai appelé.
Et maintenant ?» Reste plus qu'à patienter en espérant que Johannes frappera aux bonnes portes. Sinon, on est tous les deux dans une sacrée merde. Comment tu as appris son nom, Ah, ça, c'est une longue histoire. Tu veux que je te la raconte ? Léonie ne comprenait pas très bien comment son double, elle-même donc, pouvait lui raconter des histoires qu'elle n'avait pas déjà entendues, mais lui avait révélé le prénom du grand hibou. Et, si c'était vrai, comment vérifier ? Elle devrait reconnaître qu'au fond d'elle gisaient des informations dont elle n'avait pas la moindre idée. Alors, c'est quoi ton histoire ? Johan se fait partie de la confrérie des Titans, la société secrète de l'École européenne supérieure des sciences. Qu'est-ce que c'est que... Laisse-moi finir. Après, tu pourras poser toutes les questions qui te passeront par la tête. Certains membres de la confrérie des Titans ont mis au point une machine révolutionnaire qui permet de transférer les âmes ou les consciences dans des corps en reproduisant le phénomène de la NDE ou l'EMI, l'expérience de mort imminente. Je ne piche pas grand-chose à ce que tu dis. Bon, la NDE, c'est quand tu frôles la mort de si près que ton âme ou ta conscience, croyant que c'est la fin, s'échappe de ton corps pour entamer son dernier voyage. Les concepteurs de la machine se sont débrouillés pour faire croire au corps qu'il est sur le point de mourir, puis pour diriger l'âme qui s'échappe vers un autre organisme, un corps de substitution, un corps d'emprunt. Un brouhaha surprit Léonie dans sa conversation silencieuse. Plusieurs flics cette fois, dont deux femmes en uniforme et un homme en civil. Ils venaient la chercher, les vautours. Ils l'expédiaient dans un centre de détention pour clandestins en attente d'expulsion. Envie de vomir, goût de fiel dans la gorge. Une femme ouvrit la porte de la cellule. L'homme en civil, crâne déplumé de vautour en chef, joue ombré de barbe, lunettes, veste grise, col roulé et jean noir, entra, s'approcha de Léonie, toujours assise sur le lit, et l'observa un petit moment avant de parler. « On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas si c'est une erreur, mais on a reçu l'ordre de te relâcher. » Les paroles du vautour en chef mirent un peu de temps à se frayer un chemin dans le cerveau de Léonie. « On sait que tu es une clandestine, que t'as fricoté avec les squatteurs du 20e, mais il y a quelqu'un là-haut qui t'a à la bonne. Sans doute que t'as couché avec lui, petite pute. Fiche le camp. De toute façon, ce n'est que partie remise. Tu reviendras nous voir tôt ou tard.
Je peux récupérer mon portable ?» Sans se retourner, le vautour en chef ordonna d'un geste qu'on lui apporte son sac. Elle vérifia rapidement que s'y trouvait son argent, son téléphone et son chargeur, puis elle se leva et sortit d'un pas vacillant. Au passage, elle adressa un regard narquois au faucon et à l'ours figé par la surprise au bout du couloir. Le vautour en chef la raccompagna jusqu'à la sortie du commissariat. Un soleil radieux avait dispersé les nuages de l'aube, chassé la morosité et accroché des couleurs chaudes, joyeuses, à la ville. Quelques souvenirs du Libéria traversèrent l'esprit de Léonie, chaleur cuisante, teintes éclatantes, courses joyeuses entre les herbes sèches. Elle salua le vautour en chef et les deux femmes en uniforme perchées sur l'escalier de pierre et s'éloigna aussi vite que le lui permettaient ses jambes encore douloureuses. « Trouvez un refuge maintenant. Fonce dans le 6e arrondissement, suggéra son double. Rue Dauphine, métro Odéon. « Mais je ne connais personne dans le 6e. Fais ce que je te dis, tu n'as pas eu à t'en plaindre pour l'instant. » Léonie obtempéra en soufflant. Elle ne se reconnaissait plus dans la Léonie secrète qui la commandait avec une telle assurance. Comme elle ne savait pas où aller, elle n'était pas en position de négocier, elle n'avait pas d'autre choix que de faire confiance à son double. Il l'avait tirée d'une situation désespérée quelques instants plus tôt, enfin, elle supposait que sa grâce inattendue avait un lien avec le coup de fil passé au grand hibou. Peut-être aussi que la molécule expérimentale la rendait complètement folle. BA 47 81 CB. La porte de bois s'ouvrit dans un déclic après qu'elle eut pressé les touches du digicode. Elle s'engouffra sous le porche, croisa une femme d'une cinquantaine d'années qui la toisa d'un regard inquisiteur, se heurta quelques pas plus loin à une deuxième porte vitrée, fermée elle aussi par un système de sécurité. Léonie remarqua la caméra pivotante fixée au plafond. Code 4825. Elle ne cherchait plus à comprendre, se laissant guider à la façon d'un automate, épuisée, toute volonté anéantie. Escalier A, pas la peine d'attendre l'ascenseur, il est trop lent, tu n'as que deux étages à monter. Deux étages, dans l'état de Léonie, représentaient un effort exténuant. Elle arriva, essoufflée sur le palier, la porte de gauche, fermé à clé. Pas de panique, on peut l'ouvrir par un autre moyen. Tu vois la petite trappe sur le côté? Elle la repéra. Une plaque métallique de la même couleur que le mur. La fit coulisser. Découvrit un minuscule digicode à 9 touches à l'intérieur de la niche. Pour les distraits qui oublient leur clé, 2701. Facile, le jour de ma naissance. Mais non, je suis né un 21 août, enfin il paraît. Attends, je n'ai pas fini mon histoire. Le métro bondé, bruyant, n'avait pas permis à Léonie de reprendre sa conversation intime avec son double. Un type en costume d'une 40aine d'années s'était frotté contre elle avec insistance, le porc. Elle ne l'avait pas repoussé, pas le courage, et puis elle avait eu peur d'attirer l'attention sur elle si elle lui crachait sa colère et son dégoût à la face. Elle entra dans l'appartement, un appartement de luxe. Le vestibule était 2 fois plus vaste que sa chambre du squat sous les toits. Elle referma la porte derrière elle. Un silence apaisant l'enveloppa. Pas mal, hein? À qui est cet appartement? À moi. Moi. Tu veux d'abord prendre une douche ou entendre maintenant la fin de l'histoire? D'abord la douche. Et si possible, changer de vêtements. Et puis, j'aimerais bien manger quelque chose aussi. Elle resta au moins 20 minutes sous le jet brûlant, se frotta à 3 reprises avec le savon liquide pour se débarrasser des odeurs de sang, de sueur, de foule, de fatigue qui l'imprégnaient jusqu'aux os. Elle s'essuya énergiquement avec une serviette moelleuse trouvée sur les étagères de l'armoire. Se regarda un moment dans le haut miroir qui couvrait tout un pan de cloison. « Tu es très belle. Mais non, regarde, mes seins sont trop petits, mes hanches, mes fesses et mes cuisses trop larges. » Je n'aime pas mes cheveux, mon nez, mon front, mes lèvres. Je n'aime presque rien de moi. Elle refusa d'enfiler ses vêtements souillés. Mêlée dans la machine à laver et met un peignoir en attendant. Elle s'emmitoufla dans le peignoir éponge blanc suspendu à la patère, agréable au toucher et bien trop grand pour elle. Elle fourra son pantalon, sa culotte, son soutien-gorge, son t-shirt, ses chaussettes et même son blouson dans le tambour de la machine installé à côté de la cabine de douche, et surmonté d'un sèche-linge, ajouta une pastille de lessive et lança le programme de lavage. Puis elle se rendit dans la cuisine, séparée du séjour salle à manger par un bar, ouvrit le frigo et prit 4 œufs qu'elle battit dans un bol avant d'en verser le contenu dans une poêle et d'allumer un feu de la plaque à induction. C'était la toute première fois qu'elle utilisait ce genre de matériel, et pourtant, elle ne marquait aucune hésitation, comme si elle avait toujours vécu dans les lieux. Son double avait donc une double vie. Tandis que l'omelette grésillait doucement dans la poêle, elle se disait qu'elle rêvait. Il n'y avait pas d'autre explication. Qu'elle allait se réveiller en sursaut dans la piôle du squat, ou entre les cloisons du palais de carton d'Anselme, ou encore sous les branches rampantes du résineux dans le square. Peut-être même dans la chambre à cauchemar de tant destinée la hyène. Non, tu ne rêves pas. Elle montra d'un geste agacé la pièce principale de l'appartement. Comment expliquer tout ça, alors? La fin de l'histoire. 2 secondes. C'est prêt, j'ai faim. Elle se jucha sur un haut tabouret, engloutit l'omelette en quelques bouchées directement dans la poêle, but 4 verres d'eau d'affilée, avala encore un gros morceau de camembert avec 2 tranches de pain de mie, acheva son repas par un yaourt mélangé avec du miel et 2 bananes à la peau presque entièrement brune. Eh ben, tu n'avais pas mangé depuis combien de temps? Tu es prête pour la fin de l'histoire? Elle acquiesça d'un hochement de tête, exactement comme si son double était assis face à elle. On en était resté au corps de substitution, au corps d'emprunt, tu te souviens? Johannes et les autres techniciens du laboratoire. Les hiboux? Si tu veux. Les hiboux, donc, ne te payent pas pour expérimenter une nouvelle molécule, comme ils disent. Tu n'es pour eux qu'un...
Vous êtes qui? Où est Cyriane? Qu'est-ce que vous fabriquez dans son peignoir?
Léonie sursauta. Une jeune blanche se tenait dans l'ouverture arrondie entre l'entrée et le séjour, vêtue d'une robe à fleurs serrée à la taille, élégante, belle à mourir. Merde, Aurel. C'est vrai qu'elle a toujours son jeu de clé. Aurel? Répéta Léonie à voix haute. Elle n'avait pas entendu entrer la visiteuse.
Vous me connaissez? On s'est rencontrés où?
Léonie se sentit moche, honteuse face à la beauté irréelle de la jeune blanche. Dis-lui que t'es une copine à moi. Et que je t'ai prêté l'appartement pour 1 ou 2 nuits.
Je suis une copine de... Cyriane?
Cyriane. Il m'a prêté l'appartement pour la nuit. Des braises soupçonneuses s'allumèrent dans les yeux de la jeune blanche. Vous savez où il est passé? Je dois absolument lui parler.
Dis-lui que je suis parti en voyage et que je reviendrai dans 3 jours.
Il est parti en voyage. Il reviendra dans 3 jours.
La jeune blanche s'avança au milieu du séjour, emprisonna Léonie dans un regard froid, pénétrant, brandit son téléphone portable comme une menace.
Si vous me disiez maintenant qui vous êtes et ce que vous fichez là, vous n'avez qu'une petite minute pour me convaincre.
La jeune blanche s'avança au milieu du séjour, emprisonna Léonie dans un regard froid, pénétrant, brandit son téléphone portable comme une menace.
Si vous me disiez maintenant qui vous êtes et ce que vous fichez là, vous n'avez qu'une petite minute pour me convaincre.